Chapitre 9. Gyrophare sur la lande. Mercredi 16 août 2000, 17h10, route de l'abbaye, île de Morlesey.
Ta gueule !
Ai-je crié à Armand, avant même qu'il ouvre la bouche, sans doute pour tester sur moi une de ses vannes creuses préférées. L'avantage était qu'Armand comprenait vite. Il n'insista pas et partit en asticoter un autre, mieux luné. Il fallait que je m'isole. Je suivais le groupe mécaniquement. Ranger les voiles, récupérer les habits secs, les enfiler, repartir à pied vers le camp, quitter le port, traverser le village de Saint-Argan, la place du 20 mai 1908, passer devant la statue de Mazarin, emprunter les ruelles aux volets rouges jusqu'à la sortie du village, en troupeau. Le même itinéraire, les mêmes gestes, depuis 10 jours. Je pouvais les effectuer sans cesser de penser. Mon père vivant. Au début, au tout début, c'était comme deux pôles qui s'opposaient dans mon esprit. D'un côté, la dimension impossible de la situation, l'irrationnel. Un orphelin à qui tout le monde a affirmé que son père était mort le croise bel et bien vivant 10 ans après. Un truc de dingue. Mais d'un autre côté, l'autre pôle, l'enchaînement logique des événements. Je raisonnais tout en marchant. Avancer à pas réguliers structurait ma pensée. Non, à bien y réfléchir, il n'y avait rien d'irrationnel. Tout était très logique. Les derniers mots de ma mère, sa prophétie, étaient clairs. Un jour, tu retrouveras papa. Qu'avait-elle voulu dire? Qu'il était parti loin, mais qu'il n'était pas mort? Alors tout s'expliquait. Mes sentiments profonds d'abord. Cette absence de pleurs, lorsque j'avais 6 ans. Cette absence de tristesse, depuis 10 ans. Cette absence de réaction normale, la réaction que l'on attendrait d'un enfant à qui on l'annonce que son père est mort, les larmes, l'hystérie, la dépression. Comment l'expliquer autrement, cette indifférence? Sinon parce que je savais qu'on me mentait, que mon père était encore vivant, qu'il m'attendait. Bien entendu, j'y avais songé. M'inventer un père vivant, c'était une façon commode de me déculpabiliser. Une espèce de travail sournois de mon inconscient. Devant moi, Yo-Yo et 3 ados se mirent à entonner le jour le plus long, beuglant plus que chantant en rythmant leurs pas, tapant lourdement sur le sol poussiéreux de la route. Sous le fer et la mitraille, par la poudre et le canon, nous irons vers la victoire, car ce jour est le plus long. Ces crétins se faisaient une joie d'accompagner leur marche par des chants militaires les plus ringards qui soient. Yo-Yo le premier. Quand il ne se souvenait plus des paroles, il sifflait. M'enfermer dans une bulle. La bulle noire de mon deuil. Je n'avais pas vu mourir mon père. Je n'avais pas vu son corps. Je n'avais jamais vu sa tombe. J'ignorais même comment il était mort. Logiquement, en l'absence de deuil, l'esprit d'un enfant recherche toutes les ruses pour ne pas accepter la mort. J'avais lu tout ça, des tas de livres ou des sites sur le deuil, pendant toutes ces années, toutes les théories sur l'acceptation d'un décès. Mais ça n'avait pas suffi à fragiliser ma certitude. Tout simplement parce que mon père était vivant, parce qu'on m'avait trompé, toutes ces années. On quittait Saint-Argan et on longeait les nouveaux lotissements. Des petites constructions neuves, blanches et affreuses, sur 2 étages, toutes identiques. Comme une injure aux maisons de granit du centre de Saint-Argan, des hameaux, des fermes de Morlesey. Ce matin, à l'aller, ces pavillons modernes m'apparaissaient banals, juste banals. Désormais, au retour, ces lotissements me semblaient fragiles, fragiles et sinistres à la fois. Comme des pièges tendus aux voyageurs, une sournoise prison à touristes. Ce paysage que je trouvais sans saveur il y a quelques heures se teintait tout d'un coup de mystère. Sorti de Saint-Argan, il ne restait plus que la lande déserte que traversait sur 5 kilomètres la longue route de l'abbaye. Pour éviter les voitures, nous marchions sur la piste cyclable. Le bruit du vent dans l'herbe haute me sembla tout à coup angoissant. On apercevait au loin, comme de presque toute l'île, la croix de l'abbaye Saint-Antoine. Elle était construite sur une petite butte, une motte féodale, précisait le père Duval. La croix, qui se détachait dans un ciel qui commençait à s'assombrir, donnait au paysage une allure de mauvais film d'horreur. Les autres, indifférents à ma perception lugubre des alentours, s'étaient mis à siffler avec entrain la grande évasion. Le ciel qui se couvrait semblait révéler une face cachée de l'île. les créatures de la lande, les fantômes des moines. Je savais que la lande était truffée de souterrains, qui reliaient l'abbaye Saint-Antoine à la citadelle Mazarin, au port de Saint-Argan, aux plages de Lance de Ruby ou à la Crique aux Mauves. Tout un réseau souterrain que mon père fouillait, un véritable dédale. J'avais l'impression que les joyeux braillements de Yo-Yo et des ados, leurs bruits de bottes sur le sentier poussiéreux, réveillaient des êtres endormis dessous, dans les entrailles de l'île. Un peu comme ces lotissements en cubes modernes qui, par leur seule présence, profanaient des lieux sacrés. Quelque chose était rompu. Cette île actuelle, ce n'était plus celle de mon père, celle de mon enfance. Et pourtant, elle existait toujours, enfouie, cachée, en attente, prête à ressurgir. Comme mon père. La route bifurquait légèrement vers la mer. Elle se rétrécissait et surplombait sur 300 mètres la plus belle plage de l'île, la fameuse Anse de Ruby. Bizarrement baptisée ainsi, puisque la plage était au contraire entourée d'arbres et de buissons que le vent panachait de toutes les teintes de vert. L'Anse de Ruby ? Pour la première fois, je me posais la question. Pourquoi ce nom étrange ? Pourquoi cette couleur rouge ? Quel sang l'eau de cette plage avait-elle dû charrier pour que les anciens se transmettent un nom si sordide ? L'Anse de Ruby. Celui des marins échoués sur les écueils à marée basse ? Ces centaines de rochers que dévoilait au large la plus grande marée d'Europe lorsqu'elle se retirait. Stéphanie tentait de nous apprendre les noms. Je les confondais tous. Le caillou bouillon, le dormeur, les trois frères, le puceau. J'étais aussi incapable de retenir les noms des rochers au large que ceux des constellations la nuit dans le ciel. À moins que ce nom, l'Anse de Ruby, ne soit simplement lié à la couleur la plus présente sur cette île, le rouge. Une teinte utilisée pour peindre presque tous les volets des maisons de l'île, surtout à Saint-Argan. L'île aux maisons rouges, comme Belle-Île-en-Mer et celle aux volets bleus. Ces tons rouges de Bornecey, si célèbres, vantés dans tous les prospectus touristiques de Normandie et d'ailleurs. Que dissimulait-il ? La chorale des ados attaquait le pont de la rivière Kouai. Ils braillaient la chanson des détenus britanniques. Je semblais le seul à faire le rapprochement entre ce refrain et cette île connue pour son bagne. On laissait les ruines de l'abbaye à notre gauche et on arrivait au grand carrefour. À droite, la presqu'île Sauvage et notre camp. Assez loin à l'opposé, au nord-ouest, on apercevait la prison Mazarin. Soudain, la troupe s'arrêta de siffler. Devant la grille de la citadelle, on devinait, malgré la distance, une agitation anormale. Des commandes-cars, en grand nombre, des fourgons, des cris, des aboiements de chiens. D'habitude, tout était calme. Juste quelques flics discrets, quelques touristes. Mais là, on percevait distinctement cette lumière caractéristique des gyrophares qui tournent. Toute une foule qui s'agitait. « On va voir ?» suggéra Madia. Un écho d'approbation se fit entendre. Yo-Yo hésita un instant. Il était tenté. Mais Stéphanie veillait. « C'est ça, les jeunes. Pas question. On rentre. » Les rangs grognèrent, résignés. Sans pour autant assouvir leur curiosité. Que se passait-il là-bas, à la prison ? Armand cassa l'ambiance en haussant les épaules. « C'est juste un transfert de détenus ! Un type qui arrive ou un autre qui ressort ! Ça doit se produire au moins trois fois par jour dans une prison ! Si c'est deux jeeps et trois gyrophares qui vous excitent !» Personne n'osa le contredire. Surtout pas moi. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il avait tort. Les autres jours, les transferts de détenus s'effectuaient sans toute cette mise en scène. Il se tramait à la citadelle quelque chose d'important, d'inhabituel, d'anormal. Mais ce n'était pas mon problème. J'avais d'autres choses en tête. Quand on entra dans le camp, plus personne ne chantait. De toute façon, il n'était pas vraiment question de défiler au pas de loi et au son du clairon devant le père Duval.
« À la douche, les putois !» gueula Yo-Yo.
Le père Duval sortit sur le pas de son bureau. Un poulailler vaguement rénové, et nous regarda passer avec ce petit sourire inimitable qu'ont les curés, qu'on peut, selon notre humeur, prendre pour de la bonté pure ou une façon non dissimulée de se foutre de notre gueule. Le père Duval maintenait sur le camp une discipline de fer. Le curé devait dépasser les 70 ans et pouvait se définir comme un détonnant mélange entre l'écolo et le paramilitaire. Le camp avait posé ses bases dans un vieux corps de ferme, au cœur de la partie la moins peuplée de l'île. Nous étions enfermés sur cette presqu'île, dans d'anciens bâtiments dont les murs tenaient encore suffisamment debout pour nous parquer comme des veaux. Nous dormions dans des tentes marabouts plantées entre les bousses de vaches. Les quartiers libres étaient strictement réglementés. Une heure, pas plus, et jamais seul. Entre la voile et l'étage collectif, il ne restait pas beaucoup de temps. En bref, il était presque impossible de s'isoler. Stéphanie cria à son tour les consignes. « Émilie, Nico, Audrey, dans 20 minutes à la cuisine !» Les tâches collectives s'exécutaient par groupe de 3. Préparer le repas, faire la vaisselle, ranger. Ça revenait assez vite, tous les 6 jours exactement. Mais comme j'avais été de corvée la veille, j'étais tranquille pour les jours suivants. Coup de chance. J'y voyais encore un de ces petits signes du destin.